Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Agnès Bonfillon et le journal de Sébastien Rouxel.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
À la une ce matin, les obsèques de Qassem Soleimani en Irak.
Mort à l'Amérique, scande des milliers de personnes venues rendre hommage au général iranien, l'un des hommes forts de la République islamique, tué hier à Bagdad par un tir de drone américain. Téhéran a promis une dure vengeance contre les États-Unis qui ont mené un nouveau raid aérien cette nuit contre des pro-iraniens en Irak. Dans la région, on craint un embrasement. Le premier ministre démissionnaire en Irak prédit une guerre dévastatrice. Et cela, malgré la prise de parole de Donald Trump depuis la Floride, Philippe Corbet.
Oui, déclaration solennelle depuis sa résidence de Floride. Le président Trump, beaucoup plus sobre, moins fanfaron qu'après la mort du chef de Daesh al-Baghdadi.
Nous avons agi pour arrêter une guerre. Nous n'avons pas agi pour déclencher une guerre. Nous ne cherchons pas à renverser le régime. Le monde est plus sûr sans ces monstres.
Le département d'État parle également de désescalade, mais le Pentagone déploie 3000 militaires supplémentaires dans la région, car Washington s'attend à ce que Téhéran se venge, que des groupes chiites visent des Américains en Irak, au Liban, à Bahreïn ou ailleurs. Les ressortissants américains ont pour consigne de quitter l'Irak immédiatement. Le conseiller à la sécurité nationale du président Trump précise que Soleimani revenait de Damas et que selon les services de renseignement, il préparait des attaques imminentes contre des militaires et soldats américains, des menaces plus intenses que d'habitude.
Philippe Corbet, notre correspondant aux États-Unis.
Villejuif sous le choc ce matin, au lendemain d'une attaque au couteau, une attaque meurtrière dans cette commune du Val-de-Marne.
L'assaillant a poignardé plusieurs personnes hier après-midi dans un parc de cette commune du Val-de-Marne. Un homme de 56 ans est mort en tentant de protéger sa femme, gravement blessée. Une autre passante a été plus légèrement atteinte. L'agresseur a ensuite continué sa route vers un centre commercial de l'Aile et Rose avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Bonjour Thomas Dulin.
Bonjour.
Vous êtes justement devant ce centre commercial où ceux que vous avez croisés tentent tant bien que mal de passer à autre chose.
Oui, ici, il n'y a plus aucune trace des événements tragiques qui se sont déroulés hier. Policiers et pompiers ont quitté les lieux. Le périmètre de sécurité a été levé. Plus de traces visibles, mais les coups de feu ont bouleversé Mourad, un employé du magasin. Il a assisté à la scène hier, inquiet de revenir au travail ce matin.
On a toujours peur. On ne sait pas s'il y avait des complices avec lui qui veulent se venger, quoi que ce soit. Mais franchement, moi, j'ai commencé à 3h du matin. Je suis venu, mais j'avais un peu peur, quoi. Quand je croise mes collègues, tout ça, on parle et tout ça. Moi, j'ai jamais assisté à ces trucs. Quand je vois ça que à la télé, c'est la première fois que je le vois en direct. Donc, on parlait, on disait ce qui s'est passé, on expliquait aux gens et tout ça. C'est très bizarre. C'est très bizarre.
Depuis l'ouverture du magasin ce matin, le parking du centre commercial se remplit peu à peu. Les clients défilent. Francis est l'un d'entre eux, au courant de ce qu'il s'est passé hier. Mais cela ne l'a pas empêché de venir faire ses courses aujourd'hui.
De toute façon, c'était fait. Bon, en plus, c'était. Le type, apparemment, il avait qu'un couteau, donc c'est pas. Faut relativiser. Sinon, on n'en sort pas.
Voilà, pour la plupart des clients croisés ce matin, c'est le jour d'après. Il faut aller de l'avant, même si, bien sûr, le parcours meurtrier de l'assaillant est au cœur de toutes les discussions ici à l'Aïle-et-Rose.
Thomas Dulin en direct de l'Aïle-et-Rose pour RTL. Alors, est-ce un coup de folie ou un acte terroriste? Les motivations de l'assaillant restent floues ce matin. Un sac lui appartenant a été retrouvé près du lieu de l'attaque, à l'intérieur des objets, laissant penser qu'il était converti à l'islam. Le parquet antiterroriste ne s'est pour le moment pas saisi de l'enquête. Et on a appris hier soir qu'il souffrait de troubles psychiatriques, Olivier Bois.
Oui, il était connu effectivement pour avoir des troubles psychiatriques. Il a été suivi au centre médico-psychologique du 10e arrondissement, sans qu'on puisse savoir à ce stade à quelle fréquence et quelle a été la date de son dernier bilan ou rendez-vous. Des voisins décrivaient hier soir un homme tranquille mais un peu étrange parfois. Le travail des enquêteurs continue pour tenter de comprendre la raison de son passage à l'acte. Il n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation, il n'était pas fiché S. En revanche, le parquet de Créteil a confirmé que des documents lui appartenant avaient été retrouvés hier à plusieurs centaines de mètres de l'attaque. Des documents religieux qui pourraient laisser penser à une conversion à l'islam, et il était vêtu hier d'un habit noir de type djellaba. Par ailleurs, les premiers témoins évoquaient le fait qu'il ait pu proférer des cris djihadistes en passant à l'acte. La brigade criminelle continue de vérifier ces éléments. En tout cas, pour le moment, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire, sachant qu'il peut le faire à tout instant si de nouveaux nouveaux éléments arrivent dans l'enquête.
Olivier Bois du service police-justice de RTL.
Une pause et dans un instant, la galère continue-t-elle pour les voyageurs qui rentrent de vacances? On sera dans un instant à la gare de Lyon-Part-Dieu. Hein. À tout de suite.
RTL Matin.
9h07, la suite de RTL Matin avec Agnès Bonfillon et la suite du journal de Sébastien Rouxel.
800 000 voyageurs attendus dans les gares jusqu'à demain et un trafic toujours très perturbé à la SNCF.
31e jour de grève à la compagnie ferroviaire qui a promis une amélioration pour ce nouveau week-end de retour de vacances. 7 TGV sur 10 en circulation aujourd'hui, un TER sur 2, un Transilien sur 5 et un Intercité sur 3. Bonjour Bertrand Frachon.
Bonjour.
Vous êtes ce matin à la gare de Lyon-Part-Dieu où l'amélioration promise par la SNCF est bien réelle.
Oui, ici à la gare de la Part-Dieu, les voyageurs se pressent sous les panneaux d'affichage ce matin pour s'assurer du maintien de leur train. La plupart des TGV vers Paris sont confirmés.
Il est à l'heure, il est à 7h34 en direction de Paris-Gare de Lyon. Dans tous les cas, au pire, on aurait pris un Blablacar hein, s'il avait été annulé.
Une fois à Paris, il va falloir trouver des métros.
Oui, ou des trottinettes électriques.
Là, j'étais au ski et là, je rentre à Paris. Je rentre un petit peu plus tôt que prévu parce que j'avais peu de choix dans les trains. Donc, je pars ce matin au lieu de demain, mais il n'y a pas de soucis si tout se passe bien.
Bien reposé, le ski s'est bien passé.
Tout était parfait, il a fait très beau, c'était génial.
C'est un peu plus compliqué en revanche pour ceux qui doivent voyager sur les trains express régionaux.
Là, je suis parti hier de Haute-Loire et je vais à Limoges. Donc, je suis obligé de passer par Lyon, Saint-Etienne, Lyon, Paris et redescendre sur Limoges. Donc, c'est un joli périple. Ce matin, ça se goupille pas trop. Mal quoi. Là, je pars à 7h30 de Lyon et j'arrive à 14h30 à Limoges.
Quoi qu'il en soit, la plupart des voyageurs rencontrés ce matin disent toujours comprendre les raisons de la grève.
Bertrand Frachon en direct de la gare de Lyon-Part-Dieu pour RTL. À la RATP aussi, la grève se poursuit. Seules les deux lignes automatiques fonctionneront normalement à Paris aujourd'hui, les autres en service partiel.
Et malgré la baisse de mobilisation, les syndicats n'entendent pas baisser la garde.
L'intersyndicale appelle à manifester dans toute la France samedi prochain, deux jours seulement après une nouvelle journée d'action prévue jeudi. Le but de cette annonce, mettre la pression sur le gouvernement alors que les négociations doivent reprendre mardi. Et mardi, justement, Édouard Philippe sera l'invité exceptionnel de RTL. Le Premier ministre répondra aux questions d'Alba Ventura dans la matinale d'Yves Calvi.
Depuis six mois, Sébastien, la Fédération française lui a déroulé le tapis rouge pour tenter de le convaincre. Sacha Zoya a finalement choisi la France.
Le jeune athlète de 17 ans avait trois possibilités. L'Hexagone, le pays de sa mère, le Zimbabwe, celui de son père, ou l'Australie, là où il est né. Mais c'est bien le maillot bleu qu'il a choisi. Une très bonne nouvelle pour l'athlétisme français. Ce qu'il faut bien le dire, Jean-Michel Rascol, c'est un vrai prodige.
Il sprinte, saute, accélère, affole la planète athlétisme comme Usain Bolt au même âge. L'arraché à l'Australie, où il continuera de vivre la moitié de l'année, est une sacrée victoire. De perche avec Renaud Lavillenie, un échange sur les haies avec l'ancien champion du monde Ladji Doucouré ont fait pencher la balance, comme la perspective de disputer les Jeux Olympiques de 2024 avec le maillot de l'équipe de France Olympique. André Giraud est le président de la Fédération Française d'Athlétisme.
On peut parler de phénomène quand on regarde ces vidéos et en particulier celles qui ont été tournées à l'occasion de nos championnats de France à Angers. On voit qu'il a vraiment une marge par rapport aux autres, aux garçons du même âge. Vous savez, il faut qu'il apprennent à gérer la pression, il faut qu'ils apprennent aussi à gérer sa nouvelle vie, donc il y a beaucoup d'inconnus, on va être justement derrière lui pour l'accompagner et pour faire en sorte que ce soit une réussite.
Le Mondial Junior, les Championnats d'Europe à Paris, l'été prochain sont déjà à son programme, et pourquoi pas un strapontin aux Jeux de Tokyo? Juste pour apprendre.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.
Les 32e de finale de la Coupe de France, la suite.
Bordeaux s'est imposé hier soir face au Mans. Score final 2-0. Aujourd'hui, 17 confrontations prévues. Parmi elles, Bayonne, Nantes. Deux clubs chers à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Formé dans le premier, devenu joueur pro dans le second. Son cœur risque de balancer. En tout cas, il fera tout pour assister au match.
C'est une belle affiche, tant mieux, il peut y avoir beaucoup de monde, même si c'est une région de rugby avant tout, mais ils aiment beaucoup le foot. On a pu s'en rendre compte lorsqu'on avait fait notre stage avec l'équipe de France avant l'Euro 2016, donc c'est une belle affiche. Je vais faire en sorte de pouvoir y être.
Didier Deschamps, micro RTL de Nicolas Georgerot. Et notez que les 32e de finale de la Coupe de France sont à suivre toute la journée dans les flashs de RTL avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux.
Certains l'aiment à la compote, d'autres à la frangipane. Tout simplement, vous oubliez la brioche avec les fruits confits de Provence, mais c'est pas grave, Sébastien.
Je ne pouvais pas faire toutes les spécialités, mais au fond, peu importe les goûts, ce qui est sûr, c'est que 9 Français sur 10 vont déguster une galette des rois en ce début d'année. Une tradition,
non,
un rendez-vous.
Vous m'avez vexé, c'est comme ça.
On va entendre. C'est un rendez-vous incontournable, même pour les boulangers. Franck Hanson, vous êtes allé à Attiche, c'est entre Lille et Lens, où Thomas tient une pâtisserie et chez lui tout est fait maison.
Elles sont bien exposées dans la boulangerie avec leur couronne. Ces galettes, Michael Thomas les prépare délicatement dans l'atelier. Feuilletage, garniture et fèves en porcelaine.
Je suis en train de préparer le feuilletage. Pétri sur place, beurre doux naturel. Prendre son temps, ça se prépare pas en 5 minutes. On le laisse reposer une heure entre deux en fait. On est en train de garnir les galettes frangipane, pochées, sans oublier les fèves. On les met au bord, si on les met au milieu, en fait on va la découper, on va automatiquement tomber dedans.
Installée depuis 20 ans à Attiche, Corinne, son épouse, apprécie ce rendez-vous de janvier et défend un produit maison.
Une bonne galette frangipane à base de bonne poudre d'amande, généreuse et onctueuse en fait. Vous avez de la pistache, du chocolat. Nous, toujours, on ne part pas dans des délires, si je dirais, de sortes de galettes parce qu'on est toujours en fabrication maison.
Pommes ou frangipane, en tout cas, les gourmands sont déjà là.
Moment de convivialité.
Bonne année.
On commence aujourd'hui ou la semaine entre collègues. On se ramène une petite galette au bureau. Celui qui veut être roi ou reine, hein, ça reste toujours qui va avoir la fève.
Très très bon. Et le plus jeune enfant de la famille sous la table disait: papy, tu prends celle-là, mamie, tu prends celle-là.
Qu'on soit grand ou petit, on veut la fève.
Dans cette commune du Nord, plusieurs centaines de galettes sont confectionnées pour le mois. Autant d'endroits possibles.
Le reportage de Franck Hanson pour RTL.
Ça a provoqué un très très gros débat dans le studio, je ne vous raconte pas. Donc demain en tout cas, c'est galette pour nous, hein. Je ne sais pas pour vous, mais nous en tout cas demain c'est galette, on est d'accord ? On sait pas.
Non, brioche pour vous.
Ah, pour moi c'est oui,
brioche des rois.
Oui, brioche des rois. Mais je peux dire galette des rois, c'est une brioche. Je me comprends.